Passionnés, étudiants, professeurs, journalistes ou des invités de tout horizon, Nicolas Boissineau les reçoit pour une immersion au cœur de l'histoire sur Prune 92 FM. Moment d'histoire. L'émission qui voyage dans le Nantes d'un autre temps.
Depuis la fin de l'année 2019, la loi de programmation pluriannuelle de la recherche contraste le milieu universitaire. Sous l'impulsion de Frédéric Vidal, ministre de l'enseignement supérieur, elle passe en force. On va rappeler les conditions de son vote. Durant l'été, la loi LPPR est présentée en Conseil des ministres. Elle fait l'objet d'une procédure accélérée pour être votée en septembre. Puis, dans la nuit du 28 au 29 octobre, une poignée de sénateurs a adopté cette réforme majeure sur la recherche française. Incognito, profitant du brouhaha du Covid-19. Mais pourquoi cette loi est-elle autant dangereuse pour l'université et la recherche? Parce qu'elle va diminuer son financement. Désormais, la programmation budgétaire est étalée sur 10 ans au lieu de 7. La loi LPPR va aussi favoriser des financements dits par appel à projet, plus précaires que des financements pérennes. Dans la même lignée, on précarise le recrutement des enseignants-chercheurs avec un CDI de mission sur le temps d'un projet, autrement dit des CDD. Et si jamais vous espérez une titularisation, il faudra passer par une période de tenure track. Mais qu'est-ce que c'est? On sélectionne un certain nombre de candidats pour un même poste. Dans ce cas-là, on leur propose un CDD de 3 à 6 ans, avant tout simplement d'en sélectionner un seul. Enfin, un amendement adopté par le Sénat modifie le code pénal. Lors de grèves, les occupations de fac seront punies par 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Une fois de plus, c'est un coup de massue pour l'université française qui, d'année en année, prend la voie de sa privatisation. Allez, restons positifs. Bonjour à tous et bienvenue dans Moment d'Histoire. Aujourd'hui dans cette émission, nous sommes de retour dans le Nantes du XVIIIe siècle. Au temps des familles d'armateurs, des grands négociants et du prospère commerce triangulaire. L'année dernière, pour la toute première émission de Moments d'Histoire sur les ondes de Prune, j'ai eu la joie de recevoir Bernard Michon, maître de conférence en histoire moderne à l'Université de Nantes. Nous nous sommes entretenus sur l'histoire de la traite négrière et du travail de mémoire dans la cité des Ducs. Nous réécouterons son entretien en deuxième partie d'émission. Les studios d'enregistrement étant fermés en raison des conditions sanitaires, j'ai dû m'adapter et troquer le micro avec le téléphone. J'ai interviewé en visio en début de semaine Étienne Pouly. Fraîchement détenteur de son CAPES en histoire géo et professeur stagiaire dans l'Académie de Tours. Ses études l'ont amené à effectuer des recherches sur une famille d'armateurs nantais, les Walsh, et de publier un mémoire intitulé « D'un exil à l'autre, l'insertion d'une famille irlandaise dans la noblesse de France, les Walsh, 1741-1798 ». Sous la direction, justement, de Bernard Michon. Je vous propose d'écouter notre entretien.
Moment d'histoire.
Bonjour Étienne Pouly. Donc cette interview est particulière puisqu'on a été sur les bancs de la fac d'histoire de Nantes en même temps. Nous sommes par la suite devenus de bons copains et on a même été en colocation avec nos autres compères pendant 2 ans. Comment vas-tu?
Bah écoute, super, bonjour Nicolas, bonjour à tous, moi ça va bien, toi aussi?
Ouais, très bien. D'habitude je vous vois mes invités, mais là exceptionnellement je vais te tutoyer si tu n'as aucun inconvénient.
Absolument pas.
Donc, tu as 24 ans, tu as suivi tes études au sein de l'Université de Nantes. Tu es aujourd'hui en année de stage pour devenir professeur d'histoire-géographie.
C'est ça.
Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours?
Alors, mon parcours universitaire, il est assez classique pour un étudiant en histoire. Donc, j'ai commencé par une licence. donc à l'université de Nantes. Ensuite, j'ai bifurqué un petit peu vers une première année de master études européennes et internationales, puis je suis revenu en M2, en master 2 sur un master recherche, où j'ai écrit un mémoire. Et donc l'année dernière, je me suis inscrit au master MEF pour passer le CAPES, et donc j'ai obtenu le CAPES. Et là, ça y est, je suis en stage cette année, en attendant d'être titularisé. Voilà.
Et du coup, t'es dans quel établissement ?
Donc là, je suis en collège dans la banlieue de Tours, à 20 minutes de Tours.
Voilà. Donc tu as obtenu ton CAPES l'année dernière en arrivant à la deuxième place au niveau de l'Académie de Nantes. Donc tout d'abord, félicitations.
Merci.
Et est-ce que tu peux nous expliquer les étapes pour devenir prof ?
Alors, pour devenir donc prof d'histoire géo, en tout cas, il faut donc un master. Donc, il faut un niveau bac plus 5. Donc voilà, mon parcours, j'ai fait une licence d'histoire, après un master d'histoire. Il faut préparer le concours, donc qui est un concours national avec un nombre de postes prédéterminés à l'avance. Donc là, l'année où je suis passé, c'était 566 postes, je crois, pour l'histoire géo au niveau national. Et donc, faut sortir son épingle du jeu parmi des milliers de candidats.
Comme nous l'avons vu au compte tout à l'heure, tu as réalisé un mémoire. Quel en est l'intitulé ?
Alors, j'ai réalisé un mémoire sur une famille de Jacobites irlandais. Alors, l'intitulé exact, c'était « D'un exil à l'autre, l'insertion d'une famille irlandaise dans la noblesse de France, les Walsh ». Et les bornes chronologiques que j'avais fixées, c'était 1741-1798. Voilà. Donc, je m'en suis intéressé à cette famille-là. C'est une étude de cas sur la famille des Walsh. Donc, une famille irlandaise, jacobite, qui est arrivée en France à la fin du XVIIe siècle et qui s'est développée surtout au XVIIIe siècle.
Et en fait, le jacobinisme, qu'est-ce que c'est ?
Alors, le jacobitisme, à ne pas confondre avec le jacobinisme, le jacobitisme, c'est donc un mouvement de contestation politique qui traduisait la fidélité de certains, notamment nobles britanniques, pour la dynastie des Stuart, qui a été renversée, qui a été éjectée du pouvoir en Grande-Bretagne, enfin, à l'époque en Angleterre, qui n'était pas encore la Grande-Bretagne, en 1688, quand Guillaume III d'Orange, donc le statoudeur des Provinces-Unies, a renversé donc Jacques II Stuart et est devenu Guillaume III d'Orange, roi d'Angleterre. Et donc, certaines familles nobles, dont les Walsh, qui étaient eux d'origine irlandaise, sont restées fidèles aux Stuart et ont continué à poursuivre la lutte au nom de cette famille, de cette dynastie Stuart, souvent à l'étranger, comme ce fut le cas de la famille Walsh en France.
Le premier des Walsh qui fut enregistré par l'administration royale, c'était en 1670, à la suite d'une requête auprès de la Chambre des comptes de Bretagne pour obtenir une lettre de naturalisation, et c'était Jacques Walsh. Quelles étaient les causes de cet exil dans le Royaume de France ?
Alors, donc pour le cas de Jacques Walsh qui arrive en France, donc on n'a que la date de sa naturalisation, donc en 1670, mais on ne sait pas exactement la date précise à laquelle il est arrivé. On sait, à travers des sources généalogiques, que Jacques Walsh a dû quitter l'Irlande après la première révolution anglaise qui a amené Oliver Cromwell au pouvoir. Et notamment, cette révolution anglaise s'est aussi accompagnée de la conquête de l'Irlande par l'Angleterre républicaine et l'expropriation de très nombreux propriétaires catholiques, dont les Walsh. Les Walsh furent des expropriés donc de cette expédition d'Irlande par Cromwell. Et donc, Jacques Walsh a été le premier de cette famille-là arrivé en France. C'est pour ça que dans ma mémoire, en fait, je classe Jacques Walsh dans ce qu'on pourrait appeler du pré-jacobitisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réellement parler de jacobitisme, puisque le jacobitisme commence à partir de 1688, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec l'éjection du pouvoir de Jacques II Stuart, d'où le nom jacobitisme d'ailleurs, donc de Jacobus Jacques II. Donc Jack Walsh est quant à lui plutôt une victime des expropriations cromwelliennes et donc pas encore à proprement parler un jacobite. En revanche, ses descendants, Philippe Walsh et les enfants de Philippe Walsh dont on parlera par la suite, eux s'intègrent pleinement dans le mouvement jacobite, c'est-à-dire de fidélité à la dynastie des Stuart.
Merci Étienne pour cette contextualisation. Après la pause musicale, on va aborder l'intégration de cette famille dans la noblesse française. C'était The Player de Kit Francescoli. Vous êtes de retour dans Moments d'Histoire. Aujourd'hui, nous accueillons Étienne Pouli, un ancien étudiant en histoire de l'Université de Nantes. Il a effectué un mémoire sur une famille d'armateurs nantais, les Walsh. Étienne, comme tu le disais avant la pause, les Walsh ont quitté l'Irlande au XVIIe siècle pour le Royaume de France. Donc cette famille fit preuve d'une assimilation très rapide à la société et à la noblesse française. Comment se sont-ils intégrés ?
Alors donc, on a dit que oui, le premier des Walsh à arriver en France, c'est autour des années 1670, donc à la fin du XVIIe siècle. Mais en réalité, ce premier Walsh a été donc naturalisé français, mais il est né en Irlande. De même que son fils, à ce Walsh-là, Philippe Walsh, est né lui aussi en Irlande. La première véritablement génération de Walsh français, c'est autour des, ils sont nés donc autour des années 1700, entre 1701 et 1710. Donc c'est à partir de cette génération-là de Walsh français que j'ai commencé mon étude, mon mémoire, et j'ai étudié donc trois générations à partir de cette première génération de Walsh français, leurs enfants et leurs petits-enfants. Et donc c'est sur ces trois générations-là que se construit véritablement l'intégration des Walsh en France et progressivement à la noblesse de France. Si bien que les bornes que j'ai fixées pour mon mémoire, notamment la borne finale, c'est 1798, en réalité c'est la période révolutionnaire. Pourquoi ? Parce que dès la deuxième génération de ces Walsh français, on voit donc un membre de cette famille qui est devenu, qui a obtenu un titre de noblesse, qui est devenu comte de Serran en Anjou, on le voit émigrer, donc c'est-à-dire quitter le royaume de France dès le mois de juillet 1789. C'est-à-dire que dès les prémices de la Révolution française, il prend le parti de l'exil pour ne pas souffrir et ne pas voir la Révolution française profondément changer le royaume ou en tout cas altérer l'institution monarchique telle à laquelle la famille Walsh est attachée. Donc on voit bien que depuis l'exil jacobite, donc la période où les Walsh ont quitté définitivement l'Irlande, et l'exil, on va dire l'émigration contre-révolutionnaire, il y a quelque chose qui s'est passé, et en très peu de temps, en réalité en deux générations. Et donc c'est ça que j'ai étudié dans mon mémoire. Et donc cette intégration, elle passe, je l'ai découpée en plusieurs temps, un premier temps avec donc la première génération de Walsh français, qui va d'abord s'investir dans des activités négociantes, donc qui va participer au commerce atlantique, donc qu'on appelle commerce triangulaire, qui va participer notamment à des activités de traite d'esclaves, mais pas seulement, aussi des activités d'échange, ce qu'on appelle en droiture de marchandises entre les Antilles et la France. Et donc cette première phase va leur permettre donc d'accumuler un capital économique très important, qui va être mis au service d'une ascension sociale véritablement. C'est-à-dire que cet argent réalisé donc grâce au négoce va permettre aux Walsh d'acheter des terres nobles, et donc de se faire anoblir grâce à la terre. Et c'est notamment le cas donc d'Antoine Vincent Walsh, l'un des plus éminents représentants de cette première génération de Walsh français, qui obtient un titre de noblesse en 1749 en achetant la terre de Serran en Anjou. Et donc, à partir de là, les Walsh deviennent les comtes de Serran. Et donc, on va parler à partir de cette génération-là des Walsh de Serran. Et donc, c'est ces Walsh de Serran qui seront les premiers à émigrer donc à la fin du XVIIIe siècle, au moment de la Révolution française. Donc voilà, c'est par le négoce, puis par l'achat d'une seigneurie que cette famille s'est véritablement intégrée à la noblesse de France.
Parmi cette famille, trois générations succèdent, comme tu le disais, pour bâtir une terre d'accueil devenue désormais leur patrie, une fortune économique considérable, une réussite sociale remarquable. Et on va revenir sur Antoine Vincent Walsh. Qui est-il ?
Alors, donc, Antoine Vincent Walsh, il fait partie de cette première génération de Walsh français. C'est le deuxième fils d'une fratrie de plusieurs enfants, mais notamment quatre frères qui participeront tous au négoce dans différents endroits. C'est-à-dire que l'aîné de cette fratrie, Patrice Marc, s'installera à Morlaix où il fera du négoce. Antoine Vincent, le deuxième, s'installera à Nantes. Et les deux Benjamin, François-Jacques lui s'installera plutôt à Cadix, et le dernier, on a très peu d'informations sur lui. Donc Antoine Vincent Walsh, c'est le deuxième, et c'est lui qui s'installe à Nantes. Il s'installe à Nantes autour des années 1730, au moment de ça. Il a environ 30 ans. Et donc, pourquoi il s'installe à Nantes? Parce qu'il y a déjà une forte communauté irlandaise. Une forte communauté irlandaise qui s'est investie dans le commerce, notamment le commerce atlantique. D'ailleurs, il épouse une de ses une descendante aussi d'une famille jacobite, Marie O'Shill. Donc O'Shill, c'est une famille aussi de négociants irlandais installés à Nantes. Donc Antoine Vincent Walsh participe donc à ce commerce. Il arme de très nombreux navires, dont certains font de la traite négrière. Il fonde notamment une société de traite. La société d'Angola, donc pour effectuer la traite sur donc la côte de l'actuel Angola qui est jusqu'alors plutôt délaissée par les négociants français qui s'intéressent plutôt à la côte du Sénégal ou de la Guinée.
Antoine Walsh contrôle 28% de tous les armements négriers de Nantes. Avec sa compagnie, il organise 46 voyages de commerce triangulaire, dont 7 pour la seule année 1751. Mais il me semble qu'il avait aussi une seconde activité.
Donc, il arme de nombreux navires, dont certains négriers, et puis il investit aussi dans les Caraïbes, notamment à Saint-Domingue. Il achète au moins 8 plantations de sucre, notamment, peut-être plus. Moi, j'en ai retrouvé de certaines dans les sources, 8. Donc, il investit, voilà, sa fortune, dans un premier temps, dans la terre aux Antilles. Et dans un deuxième temps, il va investir sa fortune dans une terre française, dans l'Anjou, donc la terre de Séran. Alors il l'achète, c'est un peu particulier, il l'achète pas pour lui-même, il l'achète pour son frère, pour le troisième frère dont j'ai parlé, François-Jacques, qui va devenir donc François-Jacques, comte de Séran, donc qui va fonder la famille des Walsh de Séran.
Mais il reste aussi très attaché à ses activités des Jacobites.
C'est le meilleur exemple de cette famille, de cette génération-là, et des générations qui suivront d'ailleurs, de la survivance de la tradition jacobite chez les Walsh. Donc c'est Antoine Vincent, je le rappelle, c'est le petit-fils du tout premier Walsh qui est arrivé en France. Mais Antoine Vincent était toujours jacobite. Et d'ailleurs, c'était un ami, semble-t-il, intime du prétendant jacobite donc du XVIIIe siècle, Charles-Édouard Stuart, petit-fils de Jacques II, qui a été déposé en 1688. Donc on a retrouvé dans les sources, j'ai retrouvé de nombreuses lettres échangées directement entre Antoine Vincent et le prétendant. Et notamment, Antoine Vincent a rendu un fier service au prétendant Charles-Édouard Stuart. En 1745, il a armé à ses propres frais une flotte pour envahir l'Écosse, au moment où la France et la Grande-Bretagne sont en guerre, et où la plupart des armées britanniques sont occupées en Europe à faire la guerre notamment aux Français. Et donc Antoine Vincent arme à ses frais une expédition pour débarquer des hommes en Écosse, et l'objectif évidemment, c'est de soulever l'Écosse et puis organiser une grande rébellion jacobite en Angleterre pour tout simplement remplacer la dynastie, donc déposer le roi qui fait maintenant partie de la dynastie des Hanovre, et pour le remplacer par le prétendant en question, donc Charles-Édouard Stuart. Donc cette expédition a réussi dans le sens où le prétendant, avec plusieurs milliers d'hommes, ont réussi à débarquer en Écosse. Ensuite, elle a tourné court, puisque par manque de soutien de la population locale, et aussi car les Britanniques ont rapatrié rapidement une armée dans les îles britanniques, l'expédition s'est fait écraser donc en 1746 à Culloden dans le nord de l'Écosse, et c'était la dernière tentative militaire pour remplacer la dynastie des Hanovre par la dynastie Stuart. Donc voilà, c'était, on va dire, le champ du cygne du jacobitisme militaire.
Donc, comme tu le disais, Antoine Walsh contribue à financer l'expédition de 1745 en Écosse qui visait à remettre sur le trône Charles-Édouard Stuart. Et juste pour la petite anecdote, juste avant l'expédition, il avait stocké 11 000 mousquets dans l'un de ses entrepôts à Nantes, ce qui était considérable à l'époque. Antoine Vincent Walsh est aussi impliqué au compte du roi de France, Louis XV. Qu'a-t-il fait ?
Cette tentative de débarquement a intéressé le roi de France, Louis XV, qui, voyant une opportunité d'ouvrir un second front alors qu'il était en train d'affronter les Britanniques sur le théâtre européen, il a vu l'opportunité d'ouvrir un second front directement dans le territoire britannique, en Angleterre. Et donc, il a chargé Antoine Vincent d'organiser un deuxième débarquement, cette fois français. Donc, Antoine Vincent a été chargé d'organiser sur les côtes des Flandres, d'organiser toute une escadre française qui, finalement, aura pris trop de temps à s'organiser et à se monter, et la rébellion jacobite aura déjà été battue et la guerre aura évolué. Et en fait, ça ne devient plus dans l'intérêt de la France d'organiser ce débarquement. Donc, on voit bien qu'Antoine Vincent a eu un rôle, on va dire, militaire, même géopolitique, on peut dire, de premier ordre, même si rien ne s'est concrétisé. Il a eu véritablement la confiance du roi de France et la confiance absolue du prétendant jacobite qui était appelé par cette tentative d'insurrection à renverser le roi de Grande-Bretagne et donc devenir à sa place Grande-Bretagne. Mais rien de tout ça n'a réussi. Donc, une fois ce double échec conclu, Antoine Vincent restera ami, il continuera d'échanger des lettres avec le prétendant, mais il arrêtera toutes ses activités jacobites, c'est-à-dire il arrêtera de tenter d'armer des bateaux ou de tenter d'organiser des débarquements en Angleterre. Mais il conservera quand même sa fidélité affective à la dynastie Stuart, tout en s'intégrant et en s'assimilant à la noblesse de France et justement en commençant une stratégie d'ascension sociale par l'achat de cette terre de Séran dont on a parlé.
Merci Étienne Pouli d'être intervenu dans cette émission. Ton directeur de recherche, c'était bien Bernard Michon, c'est ça ?
Oui, Bernard Michon, que j'en profite pour saluer si jamais il écoute cette émission. Donc qui lui est spécialiste voilà du commerce, du négoce nantais au XVIIIe siècle. Et donc voilà, il a accepté de m'accueillir sous sa direction pour cette année de master et je le remercie encore.
Merci, à bientôt. Donc on va rester dans la thématique puisqu'on va justement puiser une rediffusion d'une discussion avec Bernard Michon. L'année dernière, pour la toute première émission de Moments d'Histoire sur les ondes de Prune, j'ai eu la joie de le recevoir et nous étions entretenus sur l'histoire de la traite négrière et du travail de mémoire dans la cité des Ducs. Mais avant ça, une bande-annonce.
Moment d'histoire. L'émission qui voyage dans le Nantes d'un autre temps. Animée par Nicolas Boissineau tous les troisièmes jeudis du mois, entre midi et 13h sur Prune 92 FM.
Du passé négrier nantais, restent les façades des maisons bourgeoises de l'île Feydeau et du quai de la Fosse. Elles sont le témoin d'une époque riche et contrastée qui a profondément marqué la ville. Qu'est-ce qui a poussé les armateurs nantais à se lancer dans la traite négrière ? Quel en a été son impact sur la ville ? S'est-elle déroulée de la même manière du XVIIe siècle au XIXe siècle ? Comment Nantes a décidé d'assumer son passé à l'aube du XXIe siècle ? Pour éclaircir ces interrogations, j'ai reçu ce matin dans nos locaux Bernard Michon, maître de conférence en histoire moderne à l'Université de Nantes. Je vous propose d'écouter notre entretien. Bonjour Bernard Michon, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation.
Bonjour, merci à vous de m'avoir sollicité.
Avant de commencer notre entretien, je vais vous présenter à nos auditeurs. Vous êtes maître de conférence d'histoire moderne à l'Université de Nantes et directeur adjoint du CRHIA, qui est le Centre de recherche en histoire internationale et atlantique. Cette année, vous animez une nouvelle émission radio, Les Voix de l'Histoire, chez nos confrères de Radio. Est-ce que vous voulez nous en dire plus en quelques mots ?
Oui, cette émission a été décidée. Les collègues de Radio avec qui nous avons une tradition un petit peu de ponctuelle de travail, nous ont sollicité hein, pour proposer une émission d'histoire sur l'histoire de l'Europe dans un sens très large. Et cela correspond bien à un certain nombre de thématiques qui sont développées au sein de notre centre de recherche et nous avons accepté, avec l'idée de faire participer des doctorants hein, qui animent l'émission avec moi ponctuellement. Donc on a pu faire les premiers enregistrements et prochainement une émission sera diffusée avec un collègue italien hein, qui a répondu à l'invitation d'Annick Peters Susto, donc Amedeo Feniello.
Très bien, bon, on vous écoutera.
C'est gentil.
Parmi vos nombreuses publications, je pourrais citer l'ouvrage scientifique « Le port de Nantes au XVIIIe siècle », « Construction d'une ère portuaire » édité par Presse universitaire de Rennes en 2011. Vous avez dirigé de nombreuses revues, cahiers des anneaux de la mémoire, notamment les numéros 11 et 15, consacrés au port et à la traite négrière. Et plus dernièrement, en 2018, vous avez publié avec Nicole Dufourneau les actes des journées d'études de Nantes en 2016, Femmes négocent dans les ports européens, aux éditions Peter Lang. Votre exercice se porte sur l'histoire portuaire, maritime et l'histoire de la traite des Noirs en Atlantique. Quelles ont été les raisons qui vous ont poussé à vous spécialiser dans ces domaines ?
Lorsque j'ai fait mes études d'histoire, j'ai souhaité pouvoir travailler sur l'histoire maritime et l'histoire portuaire. Et j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire du port de Nantes au XVIIe siècle. Puis, dans le cadre de la thèse que j'ai soutenue sous la direction du professeur Guy Saupin, XVIIe et XVIIIe siècle. C'était une histoire de ce que l'on avait appelé l'ère portuaire de Nantes, hein, c'est-à-dire la manière dont le port de Nantes fédère autour de lui un certain nombre de ports de l'estuaire de la Loire, de l'approche face à l'Atlantique, au moment où il devient un grand port colonial. Donc ma thèse n'était pas directement en lien avec l'histoire de la traite des Noirs. Cependant, évidemment, dans les recherches archivistiques que j'avais eu l'occasion de faire, la traite est apparue, évidemment, très présente. Et après la thèse, hein, que j'ai soutenue en 2005, dans le cadre d'un programme de recherche, j'ai pu commencer à m'intéresser à la traite des Noirs. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Jean-Marc Massot, hein, le directeur de la revue des Cahiers des Anneaux de la Mémoire. Et puis, je dirais, l'aventure s'est un peu enclenchée de cette manière-là. Je dirais, de la traite, je m'intéresse davantage maintenant à l'esclavage colonial et à la manière dont fonctionnent les sociétés autour des habitations esclavagistes.
Donc, situé en fond d'estuaire à la croisée des routes terrestres et fluviaux maritimes, Nantes possède une situation géographique idéale pour se tourner vers l'Atlantique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation du port avant de prendre part au commerce triangulaire ?
Alors, Nantes est un port qui travaille, donc c'est un port très ancien, hein, qui remonte évidemment à la période antique et qui se développe à l'époque médiévale. C'est un port de fond d'estuaire, vous l'avez dit. C'est un port qui est déjà une ville importante, hein, à l'échelle du royaume de France. Et les principaux commerces, hein, qui sont pratiqués à la fin de l'époque médiévale, c'est les commerces du vin, du sel et des blés. Hein, donc, trois composantes, hein, de ce qu'on appelle la trilogie médiévale. Et puis, Nantes est une place qui est située en position de carrefour et en particulier qui entretient des liens étroits avec la péninsule ibérique, avec la Castille en particulier. Et tout un commerce se met en place, en particulier le commerce des laines de Castille. Ce commerce vient positionner finalement Nantes dans un axe commercial qui va de la péninsule ibérique en gros jusqu'aux Flandres, c'est-à-dire au nord du royaume de France. Et finalement, Nantes est bien positionnée sur cette route commerciale. S'ouvre au XVIe et XVIIe siècle également une ouverture en direction de l'Atlantique à travers la grande pêche morutière à Terre-Neuve qui donne, j'allais dire, d'une part aux marchands nantais une expérience des armements transatlantiques et d'autre part qui permet aussi une accumulation du capital qui sera réinvesti dans un premier temps dans le commerce antillais naissant au milieu du XVIIe siècle et progressivement dans la traite des Noirs.
Et justement, pourquoi à la fin du XVIIe siècle, ce port a-t-il choisi de s'engouffrer dans la traite négrière ?
Alors, c'est une question qui est évidemment centrale, qui n'est pas complètement tranchée. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Nantes devient au XVIIIe siècle le premier port négrier français, mais domine à ce point les autres places portuaires ? Hein, je rappelle simplement quelques chiffres, hein, mais Nantes, c'est l'ensemble de la période qui va du milieu du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle, c'est 1800 expéditions de traite, c'est environ 550 000 hommes, femmes, enfants déportés dans le cadre de ces expéditions. Et au XVIIIe siècle, hein, qui est la période extrêmement, extrêmement importante pour la traite, Nantes représente à elle seule un peu moins de la moitié des expéditions françaises. Alors effectivement, on peut se demander pourquoi une telle domination. Alors, Nantes, je dirais, s'engage dans la traite dans la deuxième moitié du XVIIe siècle par le biais d'un certain nombre de compagnies. On est à ce moment-là dans l'idée que cette activité négrière, la traite, doit être une activité réservée à des compagnies qui disposent d'un monopole. Et certaines de ces compagnies vont choisir Nantes comme port d'armement. Donc là, il y a déjà une première expérience de la traite qui se met en place. Ensuite, on peut dire que les Nantais sont à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, extrêmement bien positionnés dans les réseaux versaillais. Un négociant comme Joachim d'Escazo du Halay est quelqu'un qui a, je dirais, l'écoute des dirigeants. Enfin, on a à Nantes un certain nombre de négociants armateurs, et je pense en particulier dans les premières années du XVIIIe siècle, les frères Montaudoin vont vraiment se lancer dans la traite privée, par contre. C'est-à-dire qu'au moment où les compagnies à monopole déclinent parce qu'elles sont dans l'incapacité de satisfaire les demandes des planteurs en captifs et en esclaves, c'est vraiment la traite privée qui va prendre le relais. Et là, à ce moment-là, les Nantais se retrouvent extrêmement bien positionnés et Montaudoin va vraiment... on est pendant la guerre de succession d'Espagne, donc on est dans les premières années du XVIIIe siècle, va lancer une activité de traite à très grande échelle.
Et cette activité, elle atteint son apogée ?
Alors, elle atteint son apogée vraiment à la fin du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que la décennie 1780 est vraiment la plus frénétique, hein, pour ces activités de traite. On est à un moment où la traite française atteint des niveaux extrêmement importants. C'est-à-dire que tous les grands ports après la guerre d'indépendance américaine se mettent à pratiquer la traite de manière extrêmement importante. Il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est que l'économie coloniale atteint son apogée et cette économie coloniale repose sur le recours toujours plus important à la main-d'œuvre servile pour produire du sucre de canne, du café, du coton, de l'indigo et du cacao. Hein, donc on a toujours besoin de davantage de captifs et également on peut signaler le rôle de la monarchie, hein, qui est un rôle extrêmement incitatif par un système de primes qui sont octroyées pour l'armement des navires de traite et également pour l'introduction de captifs dans les colonies, la principale colonie étant Saint-Domingue, hein, l'actuel Haïti. Et paradoxalement, et c'est un mauvais clin d'œil de l'histoire, on peut dire que en 1789, l'année de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les Nantais n'ont jamais armé autant de navires de traite.
Et justement, vous disiez tout à l'heure que la ville recense environ 1800 expéditions. Vous parliez de Saint-Domingue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus le parcours d'un bateau nantais ?
Tout à fait. Alors d'abord, avoir à l'esprit qu'un navire négrier ne part pas directement de Nantes. Hein, il part de ports qui sont situés en aval, tout simplement parce que le tirant d'eau des navires de haute mer ne leur permet pas de remonter jusqu'à la Loire. Et au XVIIIe siècle, hein, c'est vraiment Paimboeuf, hein, c'est pas Saint-Nazaire, hein, c'est Paimboeuf, oui, qui est le principal avant-port de Nantes. Donc le navire part chargé d'un certain nombre de marchandises qui vont être destinées à être échangées le long des côtes africaines contre des captifs. Un mot peut-être de ces marchandises, hein, c'est d'abord des textiles. Hein, les textiles représentent pratiquement la moitié hein, de ces marchandises qui vont être exportées et qui vont être échangées. On a également des armes à feu, mais également des armes blanches, des métaux. Et puis, je dirais, un certain nombre d'objets que l'on qualifie sans doute un peu vite de pacotille. Et ce terme de pacotille a longtemps suscité des erreurs d'interprétation. On a pensé que les pacotilles, c'était finalement des marchandises qui n'avaient aucune valeur et qu'on allait pouvoir échanger facilement contre des centaines de captifs. C'est une vision qui est erronée, sur laquelle il faut vraiment revenir. Armer un navire négrier nécessite des capitaux très importants et les marchandises qui sont envoyées le long des côtes africaines ne sont pas des marchandises de rebut, hein, comme on a pu pendant longtemps l'écrire. Un mot est aussi pour dire qu'on part également chargé d'alcool, hein, l'eau de vie, du vin également sont constitutifs des marchandises. Alors, arrivé le long des côtes africaines, on va mettre en place un certain nombre de tractations hein, avec les autorités locales, qui sont donc des autorités qui dépendent des royaumes africains et qui vont autoriser la pratique de la traite. Là aussi, l'intermédiaire africain a longtemps été décrit comme quelqu'un de naïf, en gros, qu'on arrivait facilement à berner dans une bonne logique postcoloniale. En réalité, les travaux récents, et là je pense en particulier aux travaux de collègues africains comme Ibrahim Atioub, comme Aka Kwame, ces travaux montrent bien que l'intermédiaire africain joue un rôle majeur dans les tractations et que c'est quelqu'un qui est sûr de ses goûts et qui peut faire jouer la concurrence entre les puissances européennes. Ça veut dire que concrètement, lorsqu'un armateur organise une cargaison de traite, il faut qu'il trouve, je dirais, le meilleur rapport qualité-prix pour lui, c'est-à-dire si les marchandises ne sont pas appréciées, il ne va pas pouvoir acquérir ou faire acquérir par le capitaine du navire des captifs. Alors, ces tractations à la côte africaine, elles peuvent se dérouler de deux manières. Il y a d'abord ce que l'on appelle la traite volante, c'est-à-dire que le navire descend la côte et va charger les captifs sur différents points. Et puis, deuxième possibilité, la traite sur un point fixe, dans un comptoir. Hein. Là, en particulier, dans la première moitié du XVIIIe siècle, hein, c'est le comptoir de Ouida, hein, qui est situé au Bénin actuel, qui est vraiment le principal comptoir. Et puis, progressivement, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la traite donc reste toujours dans cette côte de Guinée, hein, dans cette côte des esclaves, mais a tendance à aller de plus en plus loin du côté de ce que l'on appelle à l'époque la côte d'Angole. Une fois les captifs montés à bord, ils sont donc déportés hein, par l'Atlantique pour la plupart d'entre eux et arrivent aux colonies. Ils sont donc vendus contre des marchandises coloniales qui vont être ramenées par le navire négrier.
D'accord. Donc, merci Bernard Michon. Avant de reprendre l'entretien, je vais passer à une pause musicale.
سكوز تران دغشناوان تينيري ساستان أقام تكتفو تمي ديوان لتاسني تجاد الشكوى أين ينورني السنجي السنة تابان سكوز تران دغشناوان Thank you.
C'était Sastanam Khan de Tina Riven. Vous êtes de retour dans Moment d'Histoire, la nouvelle émission qui voyage dans le Nantes d'un autre temps sur Prime 92 FM. Aujourd'hui, nous recevons Bernard Michon, maître de conférence à l'Université de Nantes en histoire moderne. Pour cette occasion, nous parlons de la traite négrière à Nantes. Donc, on voyait avant la pause que cette activité était très lucrative. Portée par son essor économique, la ville doit s'étendre. On voit que la population double en un siècle, passant de 40 000 à 80 000 habitants. Comment Nantes, justement, a réagi à cette hausse démographique et quel a été son impact sur l'urbanisme de la ville ?
Le XVIIIe siècle est une période, vous l'avez dit, de très fort développement pour la ville. Et pour les historiens, l'indicateur démographique que vous avez indiqué est forcément le signe d'une ville attractive. Alors, c'est une ville qui déborde de ses remparts. Ils sont d'ailleurs, pour une bonne partie d'entre eux, détruit à cette période-là. Et la ville se développe, alors particulièrement en direction de Laval, c'est-à-dire en direction du fleuve. On a de nouveaux quartiers qui se construisent. D'abord, en suivant la rive droite du fleuve, on a les quartiers de l'Ermitage qui se développent. On est du côté également de Chantenay, avec la construction d'entrepôts. Tout cela suit le port, le port de Nantes qui, de son port médiéval, du port Maillard, se déplace vers la Fosse, puis vers la Chésine, vers Chantenay. Donc là, on a vraiment tout un développement. Et puis également, en direction du sud, vous savez peut-être que Nantes était composée d'un certain nombre d'îles, et ces différentes îles, qui aujourd'hui constituent l'île de Nantes, étaient des îles indépendantes et progressivement on va décider de mettre en place un certain nombre d'habitations puis d'entrepôts et également ce qui marque le XVIIIe siècle c'est la construction de nouveaux quartiers. Alors on peut prendre peut-être deux exemples dans la première moitié du XVIIIe siècle une île qui s'appelle l'île de la Sauzaie qui est située donc au sud de Nantes, et aménagé, puis loti par le subdélégué de l'intendant, c'est-à-dire l'adjoint de l'intendant de Bretagne, qui est également maire de Nantes, Gérard Mélier. Et ce lotissement devient l'île Feydeau, sur laquelle sont construits, alors pas tout de suite, mais dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, un certain nombre d'hôtels, immeubles de rapport pour alors, des négociants en particulier. Et puis peut-être un deuxième exemple, c'est la construction du quartier Gralin avec l'opéra qui est inauguré en 1788.
Merci. Je vous propose maintenant d'écouter les propos d'Alain Croix et et d'Octave Sestor. Il explique comment Nantes a décidé d'assumer son passé.
C'était pour le moins distrait, effacé, comme s'il y avait une sorte de honte. Et depuis maintenant une quinzaine d'années, au contraire, ce passé, ça s'est fait en quelques années, et maîtrisé, assumé.
Le passé s'est imposé grâce au travail d'associations, comme les Anneaux de la Mémoire, créés par Octave Sestor. Martiniquais, descendant d'esclaves, la ville l'a même nommé conseiller municipal.
C'est un juste retour des choses. C'est une façon, effectivement, de dire qu'on a sa place partout. C'est-à-dire qu'on peut être citoyen. On ne peut pas rester simplement sous le passé. Que Nantes ait fait ce geste montre aussi, c'est aussi une leçon de choses.
Donc c'est un reportage issu de France 2 en 2006. Bernard Michon, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association Les Anneaux de la Mémoire ?
Tout à fait. Les Anneaux de la Mémoire est une association qui a participé à ce travail de mémoire qui a pu être évoqué par l'historien Alain Croix et par Octave Sestor dans l'extrait que vous avez diffusé. C'est une association qui est née en 1991 et qui a largement participé à la mise en place d'une exposition qui s'est ouverte au château des Ducs de Bretagne, l'exposition « Les anneaux de la mémoire », ouverte en 1992, à la fin de l'année 1992, et qui a duré pratiquement donc un an et demi, hein, jusqu'au début de l'année 1994, et qui a été vraiment, je crois, un grand moment dans l'histoire de la ville, dans sa capacité à regarder une histoire difficile, douloureuse, mais à regarder un passé en face et à ne pas l'occulter. On a toujours su que Nantes était une ville qui avait participé très abondamment à la traite, mais les spécialistes le savaient, les gens qui s'intéressaient à l'histoire également, mais il y avait quand même une assez grande et assez large méconnaissance du grand public par rapport à ce passé négrier. Et il était véritablement important que la ville, à travers donc cette exposition, évoque ce passé. Et là, on peut dire que l'élection de Jean-Marc Ayrault, hein, comme maire de Nantes a constitué un tournant, hein, par rapport à la période des années 1980 où, en particulier en 1985, hein, le colloque qui avait été organisé par l'historien Serge Daget à l'Université de Nantes devait être accompagné par une exposition grand public, hein, pour le tricentenaire du Code Noir de 1685. Et à ce moment-là, la municipalité Chauty s'était désengagée du projet, considérant que parler de ce passé, ça allait donner une mauvaise image de la ville. Et on voit bien quand même comment Nantes, à l'échelle de la France, a pu être une ville pionnière dans la redécouverte de ce passé et, j'allais dire, de faire aussi de cette reconnaissance une forme d'atout pour, je dirais, s'imposer comme une ville attachée à la promotion aujourd'hui des droits de l'homme dans le monde.
Et donc, vous expliquez que c'était la politique qui a fait prendre conscience qu'il prenait conscience du devoir de mémoire.
Alors, je pense qu'il y a un rôle tout à fait fondamentale des différentes associations qui se sont mobilisées et des citoyens. C'est-à-dire que là, il y a eu vraiment un élan de citoyens pour citoyens curieux, intellectuels, pour que ce passé soit reconnu. Après, évidemment, on est passé à une dimension politique, hein, mais sans la mobilisation citoyenne, il n'est pas évident, évidemment, que les politiques se seraient obligatoirement emparés de ce sujet.
Et quelle est l'actualité de l'association Les Anneaux de la Mémoire ?
Alors, c'est une association qui continue, évidemment, son travail. Alors, elle continue son travail à travers donc plusieurs axes. Le premier, c'est évidemment de continuer le travail, je dirais, vis-à-vis du grand public à travers l'organisation d'expositions. Il y a eu une grande exposition Mémoire libérée qui a été présentée donc en France, à Nantes, à l'hôtel du département. Il a été, donc, cette exposition est également présentée en Haïti, puis en Afrique, au Cameroun. Et il y a également là un projet qui est un projet qui consiste à organiser une exposition permanente pour une exposition donc pour une habitation caféière de la Guadeloupe, hein, qui est l'habitation de la Grivelière en Basse-Terre. Et donc voilà, donc on poursuit ce travail, hein, vis-à-vis du grand public. Et puis, il y a toujours les cahiers des hommes de la mémoire. Hein. Vous avez eu la gentillesse de mentionner en début d'émission quelques cahiers auxquels j'ai pu participer. Hein. Donc, cette activité-là se poursuit. Le cahier 18, qui a été publié assez récemment, est un cahier qui est justement consacré à l'histoire de la Guadeloupe.
D'accord. Merci. Donc, avant de nous quitter, est-ce que vous auriez un ouvrage à nous conseiller ?
Beaucoup d'ouvrages, hein, sur cette question de la traite et de l'esclavage. Je dirais que il y a peut-être pour nos auditeurs la réalisation d'un documentaire, hein, qui a été diffusé par Arte, hein, qui s'intitule Les routes de l'esclavage, qui donc en quatre épisodes d'une heure à peu près permettent vraiment bien de retracer cette histoire. Et ces documentaires ont été coordonnés d'un point de vue scientifique par l'historienne Catherine Kokrividrovitch, et elle en a tiré un ouvrage publié chez Albin Michel, intitulé également « Les routes de l'esclavage ».
Merci Bernard Michon d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous.
Et tout de suite, une petite bande-annonce.
Moment d'histoire, l'émission qui voyage dans le Nantes d'un autre temps. Animée par Nicolas Boissineau tous les troisièmes jeudis du mois, entre midi et 13h sur Prune 92 FM.
C'était la rediffusion d'une interview de Bernard Michon, maître de conférence en histoire moderne à l'Université de Nantes, réalisée en octobre 2019 pour la première émission de Moments d'Histoire. C'est déjà la fin de l'émission. Si elle vous a plu, vous pouvez la retrouver en podcast en ligne sur le site de Prune et sur la page Facebook Moments d'Histoire-Prune92FM, Moments d'Histoire-Prune92FM. Merci à Étienne Pouli de s'être prêté au jeu pour cet entretien en visio. On se retrouve maintenant le 17 décembre pour la dernière émission de l'année 2020. Bon après-midi et à bientôt.
Passionnés, étudiants, professeurs, journalistes ou des invités de tout horizon, Nicolas Boissineau les reçoit pour une immersion au cœur de l'histoire sur Prune 92 FM. Moment d'histoire. L'émission qui voyage dans le Nantes d'un autre temps.